Guerre et paix. Troisième partie. Chapitre 2. Scène 26. À 4 heures de l'après-midi, l'armée de Murat, précédée d'un détachement de hussards wurtembourgeois et accompagnée du roi de Naples et de sa nombreuse suite, fit son entrée à Moscou. Arrivé à l'Arbatskaya, Murat s'arrêta pour attendre les nouvelles que son avant-garde devait lui apporter sur l'état de la forteresse appelée le Kremlin. Autour de lui se groupèrent quelques badauds qui regardaient avec stupéfaction ce chef étranger avec ses cheveux longs, chamarré d'or et portant une coiffure ornée de plumes multicolores.
« Dis donc, est-ce le roi ? Pas mal !»
disaient quelques-uns.
« Ôte donc ton bonnet !»
s'écriaient les autres. Un interprète s'avança et, interpellant un vieux dvornik, lui demanda si le Kremlin était loin. Surpris par l'accent polonais qu'il entendait pour la première fois, le dvornik ne comprit pas la question. Il se déroba de son mieux derrière ses camarades. Un officier de l'avant-garde revint en ce moment annoncer à Murat que les portes de la forteresse étaient fermées et qu'on s'y préparait sans doute à la défense.
« C'est bien !»
dit-il en commandant à l'un de ses aides de camp de faire avancer 4 canons. L'artillerie s'ébranla au trot et, dépassant la colonne qui suivait, Murat se dirigea vers l'Arbatskaya. Arrivé au bout de la rue, la colonne s'arrêta. Quelques officiers français mirent les bouches à feu en position et examinèrent le Kremlin au moyen d'une longue vue. Tout à coup, ils y entendirent sonner les cloches pour les vêpres. Croyant à un appel aux armes, ils s'effrayèrent et quelques fantassins coururent aux portes de Koutaïev, qui étaient barricadées par des poutres et des planches. 2 coups de fusil en partirent au moment où ils s'en approchaient. Le général qui se tenait auprès des canons leur cria quelques mots et tous, officiers et soldats, retournèrent en arrière. 3 autres coups retentirent et un soldat fut blessé au pied. À cette vue, la volonté arrêtée d'engager la lutte et de braver la mort se peignit sur tous les visages et en chassa l'expression de calme et de tranquillité qu'ils avaient un moment auparavant. Depuis le maréchal jusqu'au dernier soldat, tous comprirent qu'ils n'étaient plus dans les rues de Moscou, mais bien sur un nouveau champ de bataille, et au moment peut-être d'un combat sanglant. Les pièces furent pointées, les artilleurs avivèrent leurs mèches, l'officier commanda
« Feu !»
2 sifflements aigus se firent entendre simultanément. La mitraille s'incrusta avec un bruit sec dans la maçonnerie des portes, dans les poutres, dans la barricade, et 2 jets de fumée se balancèrent au-dessus des canons. À peine l'écho de la décharge venait-il de s'éteindre qu'un bruit étrange passa dans l'air. Une quantité innombrable de corbeaux s'élevèrent, croassant au-dessus des murailles, et tourbillonnèrent en battant lourdement l'espace de leurs milliers d'ailes. Au même instant, un cri isolé partit de derrière la barricade, et l'on vit surgir, au milieu de la fumée qui se dissipait peu à peu, la figure d'un homme, en caftan et nu-tête, tenant un fusil et visant les Français.
« Feu !»
répéta l'officier d'artillerie, et un coup de fusil retentit en même temps que les 2 coups de canon. Un nuage de fumée masqua la porte, rien ne bougea plus, et les fantassins s'en rapprochèrent de nouveau. 3 blessés et 4 morts étaient couchés devant l'entrée, tandis que 2 hommes s'enfuyaient en longeant la muraille.
« Enlevez-moi ça !»
dit l'officier en indiquant les poutres et les cadavres. Les Français achevèrent les blessés et en jetèrent les cadavres par-dessus la muraille. Qui étaient ces gens-là? Personne ne le sut. Monsieur Thiers seul leur avait consacré ces quelques lignes.
Ces misérables avaient envahi la citadelle sacrée, s'étaient emparés des fusils de l'arsenal et tirés sur les Français. On en sabra quelques-uns et l'on purgea le Kremlin de leur présence.
On vint annoncer à Murat que la voie était libre. Les Français franchirent les portes, établirent leur bivouac sur la place du Sénat, et les soldats jetèrent par la fenêtre de ce bâtiment des chaises dont ils se servirent pour allumer leur feu. Le détachement se suivait à la file et traversait le Kremlin pour aller occuper les maisons vides et abandonnées, où ils s'établissaient comme dans un camp. Avec leurs uniformes usés, leurs figures affamées et épuisées, réduites au tiers de leur premier effectif, les troupes ennemies firent néanmoins leur entrée à Moscou en bon ordre. Mais lorsqu'elles s'éparpillèrent dans les maisons désertes, elles cessèrent d'exister comme armées, et le soldat disparut pour faire place au maraudeur. Ce maraudeur, en quittant Moscou 5 semaines plus tard, emportait une foule d'objets qu'il croyait indispensables ou précieux. Il n'avait plus pour but la conquête, mais la conservation de ce qu'il avait pillé. Semblable au singe qui, après avoir plongé son bras dans l'étroit goulot d'un vase pour y saisir une poignée de noisettes, s'obstine à ne pas ouvrir la main de crainte de le laisser échapper et court ainsi le risque de la vie, les Français avaient d'autant plus de chances de périr en opérant leur retraite qu'ils traînaient après eux un immense butin. Comme le singe, ils ne voulaient pas l'abandonner. 10 minutes après leur installation, on ne distinguait plus les officiers et les soldats. Derrière les fenêtres de toutes les maisons, on voyait passer des hommes guettrés, en uniforme, examinant les chambres d'un air satisfait et furetant dans les caves et dans les glacières dont ils enlevaient les provisions. Ils déclouaient les planches qui fermaient les remises et les écuries et, retroussant leurs manches jusqu'aux coudes, allumaient les fourneaux, faisaient leur cuisine, amusaient les uns, effrayaient les autres et cherchaient à apprivoiser les femmes et les enfants. Il y avait de ces gens-là partout, dans les boutiques comme dans les rues, mais de véritables soldats, il n'en était plus question. En vain, des ordres réitérés étaient envoyés aux différents chefs de corps, leur enjoignant de défendre aux soldats de courir dans la ville, d'user de violence envers les habitants et de marauder. En vain, l'ordre avait été donné de faire chaque jour un appel général. En dépit de toutes ces mesures, ces hommes, qui hier formaient l'armée, se répandaient partout dans cette cité déserte, à la recherche des riches approvisionnements et des jouissances matérielles qu'elle leur offrait encore, et ils y disparaissaient comme l'eau qui s'infiltre dans le sable. Les soldats de la cavalerie, qui entraient dans une maison de marchand abandonnée avec tout ce qu'elle contenait, avaient beau y trouver des écuries plus spacieuses qu'il leur était nécessaire, ils ne s'emparaient pas moins de la maison voisine, qui leur semblait plus commode. Certains même accaparaient plusieurs maisons à la fois, et se hâtaient d'écrire sur la porte avec un morceau de craie par qui elles étaient occupées. Et les hommes de différentes armes finissaient par se quereller et s'injurier. Avant même d'être installés, ils couraient examiner la ville et, sur ouï dire, se portaient là où ils croyaient trouver des objets de valeur. Leur chef, après avoir vainement cherché à les arrêter, se laissait à leur tour entraîner à commettre les mêmes déprédations. Les généraux eux-mêmes se rassemblaient en foule dans les ateliers des carrosseries pour y choisir ceux-ci une voiture, ceux-là une calèche. Les quelques habitants qui n'avaient pu fuir offraient aux officiers supérieurs de les loger, dans l'espoir d'éviter par là le pillage. Les richesses abondaient, on n'en voyait pas la fin, et les Français se figuraient que dans les quartiers qu'ils n'avaient pas explorés, ils en découvriraient encore de plus grandes. Ainsi, l'envahissement d'une ville opulente par une armée épuisée eut pour conséquence la destruction de cette armée même et la destruction de la ville, et le pillage et l'incendie en furent le résultat final. Les Français attribuent l'incendie de Moscou au patriotisme féroce de Rostopchine, les Russes à la sauvagerie des Français. Mais, en réalité, on ne saurait en rendre responsable ni Rostopchine, ni les Français, et les conditions dans lesquelles la ville se trouvait en furent les seules la cause. Moscou a brûlé comme aurait pu brûler n'importe quelle ville construite en bois, abstraction faite du mauvais état des pompes. Qu'elles y furent restées ou non, comme n'importe quel village, fabrique ou maison qui aurait été abandonné par leurs propriétaires et envahi par les premiers venus. S'il est vrai de dire que Moscou fut brûlée par ses habitants, il est incontestable aussi qu'il le fut, non par eux qui y étaient restés, mais par le fait de ceux qui l'avaient quitté. Moscou ne fut pas respectée par l'ennemi comme Berlin et comme Vienne, parce que ses habitants ne reçurent pas les Français avec le pain et le sel en leur offrant la clé de la ville, mais préférèrent l'abandonner à son meilleur sort.